Une PME du crime gérée par deux francs-maçons ayant recours à de faux espions. À son actif, des vols, des élus tabassés pour les intimider, un assassinat empêché in extremis et surtout un pilote automobile tué dans son parking. Voilà en résumé l'affaire Atanor, du nom de la loge maçonnique de Deux Barbouzes, dont le procès se tient en ce moment. Les peines demandées vont jusqu'à 30 ans de prison. Je vous raconte cette histoire incroyable. Dans la deuxième partie de cet épisode, je reçois Sylvain Allemand, journaliste police-justice, ici à BFM. Il a couvert l'essentiel de ces 3 mois d'audience et il m'explique comment deux frères francs-maçons ont pu faire passer des assassinats crapuleux pour des opérations secrètes aux yeux de ceux à qui il les commandait. Il me dit jusqu'où ils sont allés, mais aussi jusqu'où ils auraient pu aller, puisque c'est un passant qui, en téléphonant à la police, a permis de révéler l'ampleur de cette entreprise criminelle. Je suis Zachary Legros, vous écoutez Le Titre à la Une, le podcast d'actualité de BFM. Bienvenue. En se promenant dans un sous-bois qu'il connaît si bien, perdu en Haute-Loire un dimanche de septembre 2019, Monsieur Sauva, retraité passionné de cueillette aux champignons, espérait sans doute tomber sur des bolets, des cèpes, mais certainement pas sur un crâne humain. Ce crâne, c'est celui de Laurent Pasquali. Le reste de ses ossements est disséminé autour d'un trou, dispersé par des animaux. La sépulture est située à une soixantaine de mètres d'une route départementale qui passe par là. Un coin vraiment compliqué à trouver, diront les gendarmes. Le lieu idéal pour cacher un corps. Laurent Pasquali, 43 ans, est pilote automobile. Il vit à grand train, très au-dessus de ses moyens en fait. Alors il s'endette, beaucoup, mais rembourse peu. Le genre d'homme qui décroche son téléphone pour demander de l'argent, mais s'empresse de l'éteindre dès lors que ses créanciers l'appellent. Dans l'après-midi du 29 mars 2018, Laurent Pasquali rentre chez lui. Au volant de sa voiture, il arrive dans le garage de son immeuble des Hauts-de-Seine, où il vit. Il sort alors de son véhicule. Un coup de feu est tiré. Une balle en plein cœur. Le pilote meurt sur le coup. Deux hommes saisissent son corps pour le transporter dans la forêt de Haute-Loire, à 5 heures de route. Mais qui a tiré? Et pourquoi l'avoir visé? Le pourquoi, l'enquête l'a établi. Et cela permet de comprendre le fonctionnement d'Atanor. Atanor, le nom d'une loge de francs-maçons fondée en 2012 à Puteaux, ville de la banlieue ouest de Paris. Une loge maçonnique, par définition, c'est fermé, opaque, mais ça n'est pas pour autant une zone de non-droit. Le fondateur de la grande loge Alliance maçonnique française le dit, on respectera jusqu'à la mort les lois de la République. Mais deux membres de la loge Atanor semblent avoir une conception différente des choses. Frédéric V et Daniel B. Frédéric V, c'est un ancien communicant reconverti dans la sécurité privée, mais surtout un homme fasciné par l'espionnage. Ça tombe bien, puisque Daniel B, lui, est un ancien des services secrets. Et ensemble, ils se proposent de remplir des missions illégales, par exemple en rendant service aux créanciers du pilote Laurent Pasquali. Nancy et Alain M sont des chefs d'entreprise amateurs de circuit automobile. Et c'est donc au début des années 2010 qu'ils font la rencontre de Pasquali. Lui a besoin d'argent. Piloter, ça coûte cher. Alors le couple lui prête 100 000 euros en faisant signer une reconnaissance de dette. Mais les années passent et toujours pas de nouvelles de cet argent. Un beau jour, le couple croise la route du vénérable frère Frédéric V, l'ancien communicant. L'homme est charismatique. Il se présente comme le dirigeant d'une société de détectives privés qui a ses contacts dans le renseignement. Alors lorsqu'il entend parler de cette affaire de dette, il propose son aide pour se renseigner sur le patrimoine réel du pilote. Top ! Affaire conclue, entre 2017 et 2018, les époux signent un premier contrat, 5000 euros, puis un deuxième, 12000, pour localiser le pilote et récupérer leur argent. Frédéric V confie la tâche à son confrère de la loge, Daniel B. Nom de code de la mission, 911, référence au modèle le plus connu de Porsche. Mais ce n'est pas l'ancien cadre des renseignements qui met les mains dans le cambouis. Il fait faire les choses par son homme de main, un certain Sébastien L., agent de sécurité, fan de la série de films Matrix, un homme recalé du concours de gardien de la paix. Il a rencontré Daniel B. dans sa jeunesse, et quand l'ancien maître espion reprend contact avec lui pour ses affaires d'Atanor, il lui présente une mission hors cadre de la DGSI au service de la France. Tout cela est en fait imaginaire. Mais tant pis, dans les mots de Daniel B., le pilote devient une menace pour le pays liée au milieu corse. Sébastien L. se met donc à le surveiller. Et le jour du meurtre, il se fait accompagner d'un ami, Dylan B. Ils sont ensemble dans le parking, face à Laurent Pasquali, ensemble lorsque le coup de feu est tiré. Mais qui a appuyé sur la gâchette ? Les deux compères s'accusent mutuellement. Sébastien L. assure que c'est son ami, Dylan B., mais voilà, c'est son arme à lui qui a été utilisée, et c'est lui qui a envoyé une photo du corps à Daniel B., sac poubelle sur la tête, du style « mission accomplie ». Daniel B. qui lui assure n'avoir pas demandé à faire tuer le pilote, simplement de le surveiller. L'ensemble de ces questions, elles sont au cœur du procès qui s'est ouvert en mars dernier. Le verdict est attendu le 17 juillet. Bonjour Sylvain Allemand.
Bonjour.
Vous êtes journaliste police-justice à BFMTV.com et vous avez couvert l'essentiel de ce procès à Tanner devant la cour d'assises spécialement composée de Paris. D'abord, comment est-ce que cette affaire a été découverte ?
Cette affaire elle a été découverte notamment grâce à la vigilance d'un riverain en juillet 2020 à Créteil.
En région parisienne.
En région parisienne, tout à fait. Près du domicile de Marie-Hélène Dini. En fait, un homme qui amène tout simplement sa fille à la crèche remarque... deux hommes garés bizarrement devant une maison, dans une voiture avec du scotch noir scotché sur la plaque d'immatriculation. Deux hommes qui font semblant de dormir à sa vue. Deux hommes qui sont cagoulés en plein mois de juillet où il fait très chaud.
C'est suspect.
Très suspect. Donc cet homme passe plusieurs reprises devant cette voiture et décide d'appeler la police. La police qui se rend par chance immédiatement sur place. Et les arrête directement dans la voiture. Et là, chose plus qu'intrigante, si je puis dire, c'est qu'une fois en garde à vue, l'un des deux hommes, qui s'appelle Pierre B., indique que tout cela est un malencontreux malentendu, qu'il est en fait un agent de la DGSE en mission, une mission homo, comme on appelle ça, qui en fait est une mission d'assassinat, pour neutraliser une agente du Mossad, qui serait donc Marie-Hélène Dini. Il va s'avérer très vite que Marie-Hélène Dini n'est absolument pas une agente du Mossad, mais une coach en entreprise. Tout ce qu'il y a de plus banal, si je puis dire. Donc de là, nous allons nous rendre compte que en fait, ces deux personnes ont été envoyées par une officine criminelle du nom d'Atanor, qui loge dans une loge maçonnique du coup du nom d'Atanor. Et tout cela est le fruit d'une manipulation et en fait le fruit d'une jalousie d'un homme qui a commandité l'assassinat de Marie-Hélène Dini.
Pour des raisons professionnelles de concurrence dans ce milieu de coach en entreprise, il se tourne donc vers Frédéric V. et Daniel B., ces deux frères de la loge Atanor dont on a parlé dans le récit. Comment est-ce que ces deux hommes sont passés de frères maçonniques à employeurs de tueurs à gages ?
Ben là, c'est vraiment, comme ça a été dit plusieurs fois dans le procès, une affaire criminelle vraiment inédite. Ces deux hommes, comme vous l'avez dit, ont monté une sorte de PME du crime. Cette expression a souvent été utilisée.
Par les avocats généraux, notamment.
Oui, notamment. En fait, c'est assez édifiant. Ces deux hommes se rencontrent donc dans un cercle maçonnique. Il faut savoir que Daniel B. est un ancien gradé des renseignements intérieurs. Donc, c'est quelqu'un qui est désormais à la retraite et qui, ça a été dit dans le procès, à la retraite, se retrouve avec un fort sentiment d'inutilité, d'inexistence. Il s'est réalisé dans son travail. Là, il se sent plus du tout reconnu. Et donc, il va rentrer dans une espèce de jeu de vouloir impressionner le charismatique Frédéric V.
Qui est
cet ancien communicant qui a monté une société de sécurité, qui fait de l'argent, qui parle très bien. C'est vraiment quelqu'un, c'est le VRP par excellence, c'est l'apporteur d'affaires, c'est quelqu'un qui parle très bien, qui a du charisme, qui n'ose pas, qui n'hésite pas à en rajouter. Et en fait, petit à petit, ces deux hommes vont s'auto-alimenter un espèce d'imaginaire et petit à petit vont glisser vers la spirale criminelle.
Quel est le déclic ?
Le déclic, ça remonte du coup aux élections municipales de 2014, où là, en fait, Henri Plagnol, ancien secrétaire d'État de Jacques Chirac et ancien maire de Saint-Maur-les-Fossés, fait appel à Frédéric V.
C'est le premier contrat à Tanor.
C'est le premier contrat. En fait, il fait appel à lui pour un peu se renseigner sur son principal rival, qui est Sylvain Berrios, qui va devenir maire de Saint-Maur-les-Fossés. Et en fait, pour avoir des informations pendant sa campagne sur lui. Et en fait, du coup, Frédéric V va faire appel à Daniel B. avec qui il est en contact dans les cercles maçonniques. Daniel B lui dit, écoute, moi je connais d'anciens gens, d'anciennes personnes avec mon ancien métier, je peux t'aider à faire des choses un peu sous le radar comme ça. Il va s'avérer quand même que Silvano Berlioz se fera quand même tabasser.
Il y a cette expression, hein, les contrats à Tanor, ça va de la chaise roulante au cercueil.
C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils offrent un panel assez large de l'assassinat à l'intimidation. C'est vraiment un éventail très large. C'est des contrats. C'est vraiment, il y a une notion de, comme on l'a dit, de PME, de contrats qui sont donnés et il y a de l'argent qui est touché. Là, d'autant plus que pour cette affaire-là, c'est un peu différent car il y a une dimension personnelle. La femme de Frédéric V a été touchée dans cette guerre des municipales fratricides à Saint-Maur-les-Fossés.
Donc il y a d'abord la femme du communicant qui donc gère cette officine.
Exactement. Et donc là, il y a une dimension très personnelle. Et on pense qu'en fait, que le fait qu'il ne soit pas fait attraper, si je puis dire, se sont dit, ah, en fait, il y a peut-être quelque chose à faire. On peut, toi, Daniel, avec tes contrats, et moi, avec ma facilité de communication, on peut faire retrouver à faire un business, si je puis dire, parce que c'est vraiment ce qui est revenu plusieurs fois durant le procès, cette idée de PME, quoi, de petite entreprise.
Avec des rôles distribués entre Frédéric V et Daniel B et l'arrivée d'un homme, Sébastien L, cet homme qui n'a pas vraiment réussi dans la vie, mais qui lui aussi fantasme ce milieu de l'espionnage et qui est recruté comme homme de main. Mais c'est dans cette PME, ce qu'il y a peut-être de plus extraordinaire, c'est que lui croit être un espion, croit travailler pour la DGSE. Il ignore que les contrats qu'on lui confie sont tout à fait illégaux.
Bah, c'est la grande question. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il pense faire des missions, qu'il dit hors cadre, pour l'État français. Donc, les sales besognes de renseignements. Il y a une petite précision à faire, qui a sûrement été mise au visage des accusés. Les missions homo, donc les assassinats de la DGSE, cela existe, mais pas sur le territoire français. Ça se passe à l'extérieur du territoire, c'est interdit dans les frontières françaises. Et lui, en fait, il est pris dans cette espèce d'imaginaire de vouloir être espion, donc on ne sait pas s'il veut croire à ça. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'il est manipulé directement par Daniel B, qui est lui, qui est un maître de la manipulation, dû aussi par ses anciens postes dans les renseignements.
Ça a été avéré des centaines de livres de manipulation psychologique retrouvés voilà. Chez lui.
Et surtout qu'il y a une supériorité intellectuelle frappante entre les deux personnages. Comme vous l'avez dit, Sébastien L, c'est quelqu'un qui a loupé le concours à l'entrée de la police, qui ensuite a enchaîné les échecs, et qui a surtout un profil, ça a souvent été évoqué, beaucoup le décrivent comme un mythomane. Quelqu'un qui veut croire qu'il est espion.
En tout cas, ça l'a poussé à faire quoi tout ça? Jusqu'où est-ce qu'il est allé?
Ça l'a poussé à recruter deux agents de DGSE pour assassiner une coach en entreprise. Ça l'a poussé à se retrouver, à participer à l'assassinat d'un pilote de course, Laurent Pasquali.
Parce qu'on ne sait pas qui a tiré cette balle, ça c'est important de le dire.
Là, c'est aussi la grande question. Il s'avère que lui, ce que dit Sébastien Hels, effectivement, il a participé à son assassinat. Il est allé il a attendu Laurent Pasquali, c'était prévu. Ils l'ont trouvé, ce n'est pas lui qui a tiré. Par contre, il assume avoir ensuite mis le corps dans la voiture avec Dylan B, qui l'accuse d'avoir tiré, d'être allé dans une forêt, dans un sous-bois, dans une zone très reculée de la France, de l'avoir enterré. Voilà, il a pour le ça, et par contre, il le dit. Par contre, il dit, je n'ai pas tiré.
Il y a donc ces trois affaires qu'on a développées, la mort de Pasquali, qui est peut-être l'acmé de ce qu'a pu faire Atanor. Cette première affaire plus politique, et puis l'ultime. Tim commande l'assassinat de Madame Dini. Les trois affaires qu'on a développées, mais il y en a plus que ça. Il y a combien de contrats à Tanor ?
Il y a qui sont jugés, c'est 112 infractions, 26 crimes, 86 délits. Donc c'est 22 accusés. Donc c'est un procès monstre. C'est vraiment quelque chose de très grand. Et ces délits, infractions vont de l'intimidation, comme on l'a dit tout à l'heure, avec cette idée de la chaise roulante à assassinat. Il y a aussi possiblement un projet d'assassinat qui a été fait sur un syndicaliste. Il y a évidemment des passages à tabac, des récupérations d'ordinateurs.
On a beaucoup parlé effectivement des patrons de cette PME, on va filer la métaphore, mais s'il y a des patrons et des contrats, c'est qu'il y a des clients. Il y a par exemple donc cette chef d'entreprise qui veut éliminer, faire assassiner peut-être l'un des syndicalistes de son entreprise. Quels sont les profils de ces clients?
Alors en fait, sur certains commanditaires, c'est encore flou. Il y a aussi le fait que parfois il y a eu des extrapolations du côté de la PME. Ce qu'on sait,
c'est-à-dire que la commande aurait été chercher des informations, intimider, mais pas forcément aller jusqu'à tabasser.
Pour Pasquali, c'est ce qui semble se profiler. Il semble qu'à aucun moment, le couple Marek qui est toujours jugé, la Rolex a été plaidé par l'avocat général pour eux.
Car les gros, créanciers du pilote.
Exactement. Donc il me semble qu'il n'ait jamais demandé à ce qu'on assassine Laurent Pasquali. Par ailleurs, pour l'affaire Dini, Jean-Luc B. qui est accusé. Lui est un coach d'entreprise qui est dans le même du coup, secteur que Marie-Hélène Dini. Marie-Hélène Dini lui fait de l'ombre. Frédéric V lui dit, écoute, moi, je peux t'en débarrasser, je peux la neutraliser. Lui, il dit, combien ? Voilà, c'est ça, c'est ce que dit Frédéric V. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il dit, on va se contenter juste d'avoir des informations. Il dit, combien ? Donc, c'est un assassinat qui est commandité par quelqu'un, par un chef d'entreprise, qui veut éliminer, tout simplement, purement, un concurrent.
Tout cela étant pris très froidement par l'ensemble des acteurs à ce moment-là.
Extrêmement froidement, pour de l'argent.
On sait combien d'argent se sont fait d'ailleurs Frédéric V et Daniel B.
Comme ça, je ne pourrais pas vous dire au total. En tout cas, pour Marie-Hélène Dini, on parlait quand même de 80 000 euros des sommes dans cet ordre-là. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même c'est des contrats enrichissants.
On comprend que dans cette affaire, la complexité, c'est vraiment la chaîne de commandement qui va du haut de Frédéric V, Daniel B, jusqu'aux exécutants, au vu des réquisitions, puisqu'on en est là au moment dans le procès où on enregistre cet épisode. Comment est-ce que l'accusation répartit les responsabilités entre chacun ?
Donc on voit très bien que deux têtes pensantes sont désignées avec ces réquisitions, qui sont Frédéric V et Daniel B. Frédéric, lui, est considéré comme un peu le commercial, celui, l'apporteur d'affaires, celui qui apporte les affaires à Daniel. Donc lui, ils ont requis de mémoire 25 ans de réclusion. Ils ont par contre requis plus pour Daniel B, qui lui a vraiment un côté froideur, qui va faire les actes, les sales besognes, qui va manipuler Sébastien L, et qui a un passif dans les renseignements. Donc lui, c'est 30 ans qui ont été requis contre lui. Et pour les hommes de main, Dylan B, qui a toujours nié durant le procès avoir tiré sur Laurent Pascali. Lui, il ne semble pas avoir convaincu la cour. Donc, 20 ans ont été requis contre lui et 22 ans contre Sébastien L, l'homme de main.
Et les clients ?
Les clients, les époux, par exemple les époux pour Laurent Pascali, la Rolex a été demandée.
Considérant qu'il n'avait pas demandé l'assassinat.
Tout à fait. Et de mémoire, sur trois autres commanditaires du même profil, la Rolex a aussi été demandée. Hormis pour Jean-Luc B.
Merci Sylvain Allemand d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une et puis on lit tous vos articles pour se remettre dans l'affaire en attendant le verdict. Merci.
Merci à vous.
Merci à Jean-Baptiste Perra pour la réalisation de ce podcast, à Léa Bertrand qui m'a aidé à le préparer et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du titre à la une. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser une note ou un commentaire. Rendez-vous tous les jours sur les plateformes d'écoute, sur notre site internet bfmtv.com et sur notre application. À bientôt.